Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Yves-Marie Sevilla et Damien Chalamel, nous entourons aujourd'hui Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, à deux reprises, deux fois quatre ans en Algérie, pour son livre « L'Algérie, vérités et légendes » qui paraît chez Perrin. Je voulais qu'on revienne, qu'on parle un peu de la colonisation. Vous soulignez dans votre livre que la colonisation en fait, a fait l'objet d'un consensus notamment des institutions internationales, de la Société des Nations, qui dit, alors je voulais la citer, hein, au début du XXe siècle, donc le pacte fondateur de la Société des Nations lui consacre son article 22 et évoque la mission sacrée de la colonisation. Elle affirme, cet article 22, que certains peuples se trouvent non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions...
Oui, la phrase est étonnante.
Dans des conditions particulièrement difficiles du monde moderne. En gros, c'est un peu des enfants, il faut les aider à grandir, quoi.
Oui, c'est il y a un siècle.
Et c'est la Société des Nations, c'est pas l'Allemagne nazie.
C'est en 1919, dans le traité de Versailles.
C'est ça, voilà.
Et... avec le pacte fondateur de la SDN. Donc c'est, on voit voilà. Aujourd'hui, nous parlions de la politique révisionniste et woke, et il y a un siècle, en 1919, on disait qu'il y a un certain nombre de peuples qui ne sont pas encore assez grands, assez mûrs, et qui doivent être mis sous tutelle, puisque c'est le terme de la... Société des Nations, il y avait des pays sous tutelle. La Namibie, le Cameroun, le Tanganyika, les anciennes colonies allemandes.
C'est ça, Damien Chalamel.
Oui, ce qui est intéressant dans ce que vous rappelez, Marc, c'est que, bien évidemment, on comprend bien que les rédacteurs de cette charte de la SDN s'inscrivent dans une tradition idéologique, on va dire, de gauche, pour faire simple, c'est-à-dire... universaliste. Oui. Et on retrouve, et donc bien évidemment, on va retrouver aussi bien le parti colonial, son grand représentant c'est Jules Ferry, celui qui va affirmer qu'il faut qu'on a les races supérieures, les peuples européens ont le droit, sinon le devoir, de coloniser les races inférieures, et même plus tard, Léon Blum, qui prononcera exactement le même type de propos. À la Chambre. Mais à l'opposé, ce qui est intéressant pour les auditeurs de Radio Courtoisie, on peut se féliciter, vous voyez, un Paul Déroulède, lui, il était plus obsédé par retrouver l'Alsace-Lorraine, plutôt que de conquérir des confins dont, en fait, donc d'un point de vue, si vous voulez, de la droite légitimiste, ça n'était pas du tout son optique, la colonisation. La colonisation, historiquement, idéologiquement, en tous les cas, et à certains moments historiquement, elle est à gauche, bien sûr. Il faut toujours le rappeler quand même.
C'est important.
Mais vous notez aussi quand même...
Et la décolonisation a été faite par la droite, par le général de Gaulle.
Tout à fait.
Oui, pour l'Algérie.
Dont on comprend qu'effectivement, il ne s'inscrivait 62. Pas dans cette tradition, lui. Puis il venait de l'infanterie métropolitaine, la métro, comme on disait. Et vous avez des propos très intéressants, parce que vous avez vous-même vécu... dans la résidence, je crois bien qu'occupait le général de Gaulle en 1943-1944.
C'est très intéressant.
C'est un chapitre... il y a deux chapitres qui m'ont beaucoup... Trois chapitres sur lesquels j'ai beaucoup retravaillé, réécrit, fermé, je suis revenu dessus. Le premier sur la colonisation est-elle un crime contre l'humanité, parce qu'il y a tout le débat juridique derrière. Le chapitre sur le royaume arabe de Napoléon III, période totalement méconnue dans l'histoire française, occultée par la Troisième République. Et puis De Gaulle et l'Algérie, parce que ayant habité effectivement presque 8 ans dans cette résidence où lui a passé un an et demi entre 1943 et 1944, il n'a pas aimé cette période. Alger 43-44.
Ça, c'est très intéressant, parce que vous racontez qu'il y a une blessure.
Et puis, il était dans un Alger, si vous voyez le film qui vient de sortir.
C'est ce que j'allais vous dire, vous l'avez vu.
Voilà, oui, je l'ai vu hier soir. Comme il faisait tellement chaud, je me suis dit, je vais aller au cinéma, au moins il fait frais.
C'est une bonne
idée.
Et
je l'ai vu. Et alors bon, il y a beaucoup de choses sans doute un peu contestables, mais je pense qu'il a été marqué par cet Alger... de la collaboration d'arlaniste, giraudiste, pétiniste, le comte de Paris, tous les complots qui se nouaient à Alger. Et il n'a pas aimé l'Algérie des pieds noirs, l'Algérie coloniale. Et il ne faut pas oublier que Alger avait envoyé quand même plusieurs députés, dont le fameux, je cherche, la France juive, Drummond,
ouais.
qui était député d'Alger. Quoi. C'était une ville très, très, très antisémite. Et je pense que De Gaulle, en 58, il a retrouvé ses souvenirs de l'Alger 43-44. Ouais. Et que ça l'a quand même un petit peu, peut-être psychologiquement, influencé dans ses choix sur l'Algérie, même si dès le départ, sans doute, son idée était faite.
Ouais, et puis, il y a une explication que j'ajouterais, et pour aller dans votre sens, c'est que les troupes françaises libres, hein, celles qu'il avait, les maigres troupes qu'il avait réussi à réunir entre 40 et 43, étaient 10 fois inférieures en nombre au gros de l'armée d'Afrique.
Oui, oui.
Qui allait commander plus tard des de Lattre, Juin
et Alger autres. A été quand même le siège de la France libre pendant un an.
Absolument. Alors, racontez-nous, Xavier Driancourt, je suis très curieux de savoir à quoi ressemble cette résidence dans laquelle De Gaulle a passé un an.
Vous avez des photos, j'en ai là dans mon téléphone.
Il faut que vous décriviez pour nos auditeurs, parce qu'ils ne verront pas la photo.
Un bordge, comme ça s'appelle, c'est-à-dire une ancienne résidence d'été sur les hauteurs d'Alger, qui a été la résidence d'été des gouverneurs généraux pendant un certain temps. Elle appartenait à la famille Olivier. D'où le nom, la résidence a été transformée, résidence des Oliviers, alors que c'est la résidence Les Oliviers.
C'est un nom de famille.
C'est un nom de famille. Et c'est en 1934 que la République l'a racheté à la famille Olivier pour en faire une résidence d'été où Végan, l'ennemi juré de Gaulle, s'est installé en 1942. Donc c'est une résidence chargée d'histoire. Avec donc une vue imprenable sur la baie d'Alger, voilà une résidence,
un style mauresque.
Ah oui. C'est très grand, c'est vaste, il y a un jardin, il y a une piscine.
Il y a un jardin, qui est pas très utilisable parce qu'il est en pente, il descend.
Le jardin des Oliviers, c'est bien connu.
Voilà, le jardin des Oliviers, il descend à pic, il est pas très utilisable, mais c'est une résidence. Historique, extrêmement agréable. Et, et c'est De Gaulle qui, en 1962, dans les accords d'Évian, a demandé que la résidence des Oliviers devienne la résidence de l'ambassadeur de France. Parce que les accords d'Évian, on a partagé les biens immobiliers français en Algérie. Les postes, les mairies, etc., un certain nombre de bâtiments sont devenus propriétés algériennes. Et d'autres sont devenus propriétés françaises. Et De Gaulle a mis la résidence des Oliviers. Et, pour la petite histoire, au dernier moment, Ben Bella, qui avait une dent contre la France, Ben Bella a retiré la résidence des Oliviers des propriétés françaises en Algérie. Et il l'a transformée en bail amphithéotique de 60 ans.
Ah, donc aujourd'hui, ça n'est plus la propriété de la France. C'est un bail.
Ça ne l'a jamais été, en réalité, parce que c'est un bail.
Bon. Mais qui a été reconduit, alors ?
Hélas, il n'a pas été reconduit. Moi, je m'en suis occupé à plusieurs reprises. Dans mes deux séjours, j'avais bien ça en tête, parce que je m'étais beaucoup occupé d'affaires immobilières au Quai d'Orsay. Je connaissais bien le statut de la résidence des Oliviers. J'avais renégocié dans mon premier et dans mon deuxième séjour, la reconduction du bail. Et le jour où je devais signer la reconduction du bail, le gouvernement Bouteflika, au moment du Hirak, a démissionné son gouvernement. Donc, je n'avais plus d'interlocuteur.
Donc, il n'y a pas eu de signature.
Et il n'y a pas eu de signature. Et puis, c'était 3 ans avant l'échéance du bail. Le bail expirait en 63. Moi, cet épisode-là, c'est en 2019. Et après, je suis parti fin 2020. Et mes successeurs...
Donc, vos successeurs sont sans droit ni titre. Si je comprends bien.
On ne le répète pas, mais ils s'occupent en sentier.
C'est le plus beau squat d'Alger.
C'est le plus beau squat d'Alger.
Bon, écoutez, en effet.
Mais au plus fort de la crise l'année dernière, L'année dernière, en 2024, le gouvernement algérien a fait donner la presse qui est aux ordres sur le statut des biens français en Algérie et en particulier de la résidence des Oliviers.
Ah oui, absolument,
Oliviers.
Je me souviens de
Donc
ça.
Donc ils avaient bien...
Mais pas seulement de la résidence des Oliviers, il y avait tout un tas de...
Oui, mais les autres, il n'y a pas de difficultés particulières. Mais la résidence, elle est très symbolique, c'est celle de Gaulle, encore une fois. Et ils ont, l'année dernière, il y a deux ans, donc dit, mais enfin, à quel titre la France occupe cette résidence qui ne lui appartient pas.
Xavier Driancourt, on parle de votre livre « L'Algérie, vérités et légendes » chez Perrin. Vous parlez de la colonisation. Moi, j'ai été élevé dans le culte de la colonisation, grande œuvre civilisatrice, grand sentiment, grand idéal des colonisateurs, des pères blancs, etc. Bon, quand on lit votre livre, ça, l'image en ressort un peu esquintée quand même, hein, parce que vous expliquez qu'il y a eu quand même beaucoup d'allers-retours, que la France ne s'est pas toujours bien comportée. Et notamment, vous citez le rapport du député modéré Alexis de Tocqueville, bien connu pour sa démocratie raisons, en Amérique, mais qui, là, ça n'a rien à voir, c'est une autre œuvre qui a été publiée en 1847. Et Alexis de Tocqueville est implacable. Hein. Il écrit « Autour de nous, les lumières se sont éteintes. Nous avons rendu la société musulmane beaucoup plus misérable, plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare qu'elle n'était avant de nous connaître. Oui. » On ne peut pas dire que ce soit un éloge.
Oui, et Napoléon III était assez convaincu de la colonisation. Aussi. Napoléon III était aussi assez convaincu que la colonisation telle qu'elle avait commencé avec une séparation totale des colons et des musulmans et des juifs ne pouvait pas durer indéfiniment et qu'il fallait changer le système.
Et en même temps, on comprend bien en lisant votre ouvrage...
Mais la Troisième République a repris la main de fer, si je puis dire.
Cette question du statut personnel était fondamentale. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pu assimiler totalement des Algériens parce que tout simplement, ils n'auraient jamais voulu renoncer à leur statut personnel. Et ceux qui l'ont fait pour accéder à la pleine citoyenneté française, hein, parce que je rappelle qu'ils étaient nationaux français sans avoir la citoyenneté, c'était parce qu'ils adoptaient le statut personnel, le régime matrimonial et autres de tous les Français. Ce qu'ont pu faire nos compatriotes juifs, qui, en tout cas leurs coreligionnaires continentaux, leur ont dit d'accepter le statut personnel français et qu'ils ne s'en porteraient pas plus mal. Mais les musulmans, eux, ne voulaient pas, et je dirais d'une certaine manière, ne pouvaient pas le faire. Enfin, ou alors, il aurait fallu. C'était une trahison. Je pense de leur identité, quoi.
Oui.
Xavier Driancourt. Oui.
Oui, non, j'ai rien à ajouter là-dessus.
Vous ne contestez pas la version de Damien Chalamel, c'est rare.
Non, mais...
C'est suffisamment rare pour être souligné. Ah, non, je plaisante. Et, on va parler de l'Algérie aujourd'hui et des héritages. Nous sommes avec Xavier Driancourt, l'Algérie, vérités et légendes.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Damien Chalamel et Yves-Marie Sevilla, vous parlez de l'héritage chrétien de l'Algérie aujourd'hui, Xavier Driancourt. Vous dites « Oui, l'Algérie a renié son héritage chrétien et en se rendant en Algérie à l'invitation et à l'instigation du cardinal Vesco, le pape Léon XIV, le pape actuel, donne malheureusement sa caution au régime militaire algérien. » Vous regrettez un peu ce voyage? Quelle implication diplomatique est-ce qu'il peut avoir?
Oui, je suis un peu dur, je le reconnais, et vis-à-vis du pape ou du voyage qu'il a fait à Alger, et surtout vis-à-vis de Monseigneur Vesco. Je pense que l'Église d'Algérie, telle que je l'ai vue, et j'ai plusieurs exemples à donner, l'Église d'Algérie, c'est une Église algérienne aujourd'hui. Elle veut surtout se démarquer de l'Église de France, n'avoir aucun lien avec l'Église française ou très peu de liens. Et Monseigneur Vesco, comme ses prédécesseurs, Monseigneur Duval, dès 1954, ont toujours pris la nationalité algérienne et le parti du régime. Et Mgr Vesco est dans cette posture vis-à-vis du régime algérien. Donc, pas de vague. C'est un peu l'équivalent de la diplomatie de M. Barrot. Pas de vague, il faut respecter Tebboune, le FLN, dire que tout va bien. Les chrétiens sont persécutés en Kabylie, mais on ne les voit pas. Voilà, je suis assez critique, je le reconnais, sur Mgr Vesco, que j'aime bien par ailleurs, que j'ai bien connu quand il était évêque d'Oran.
Mais vous critiquez sa politique. Damien Chalamel.
Oui, moi je suis aussi très choqué de l'absence de parole du Saint-Père. Quand on sait qu'effectivement, pour le pouvoir algérien, l'identité islamique est constitutive de l'identité algérienne, effectivement, avoir un regard honnête et donc critique sur le sort des chrétiens en Algérie, c'est effectivement... Oui.
Alors justement,
s'attirer les fous du pouvoir algérien, mais moi j'attendais, ben je suis un petit peu naïf, mais que Léon XIV soit rompe un peu avec la posture de celui qu'on appelait Mohamed Duval, de Monseigneur Duval, qu'on appelait, dans les milieux activistes, on l'appelait Mohamed Duval.
C'était le primat des Gaules, si je veux de mémoire.
Non, c'était l'évêque d'Alger.
Président de la conférence épiscopale.
C'était l'évêque d'Alger, surtout.
Oui, l'évêque d'Alger.
Et on l'appelait Mohamed Duval parce qu'en réalité, implicitement, il avait pris fait et cause pour le FLN. Et ses héritiers, comme vous le dites, effectivement, s'inscrivent dans cette lignée. On ne sait plus le cardinal Lavigerie.
Le seul archevêque dont on ne parle jamais, c'est Mgr Bader, qui a été entre Mgr Tessier, le grand archevêque successeur de Duval, et Mgr Defarge après. Il y a eu 4 ans de Mgr Bader, qui, chose originale, était un Jordanien. Parlait arabe et avait été élevé dans un pays musulman.
Donc on ne la lui faisait pas.
Et lui, il disait aux Algériens, écoutez, vous ne pouvez pas me la faire, moi je connais l'islam mieux que vous, je suis venu d'un pays musulman, j'ai été élevé dans la religion musulmane, je connais tout ça par cœur, donc gardez vos conneries pour vous. Et c'est le seul qui s'est opposé à cette tradition. Oui, mais le résultat, c'est que l'Église... Les évêques d'Alger et l'Église franco-algérienne, si je puis dire, a réussi à avoir la peau de Mgr Bader. Et le faire nommer ensuite au Guatemala, je crois.
Alors moi, j'ai une proposition à Rome, c'est de leur envoyer le vicaire Daniel de ma Chalamel. Paroisse, qui est mauritanien. Eh bien, il nous a dit le nombre de prêtres en Mauritanie, mais je crois qu'il se compte sur les doigts d'une main.
Oui,
et il en fait partie. Oui, c'est très bien.
Bon, bah écoutez, on va porter ce conseil au Saint-Père. En attendant, Xavier Driancourt, que reste-t-il de l'Algérie chrétienne aujourd'hui? Vous dites très clairement dans votre livre que l'Algérie a été un pays chrétien.
Oui.
Voilà. Et qu'aujourd'hui, si je vous ai bien lu, il en reste entre 350 000 et 500 000.
En 62.
En 62.
Aujourd'hui, non.
À la fin de la période coloniale, c'est ça. Oui.
Mais aujourd'hui, on dit qu'il en reste entre 5 et 8 000, mais surtout des migrants subsahariens.
Et là, vous parlez des catholiques ou des protestants?
Des catholiques. Alors, il y a les protestants, les évangéliques, qui sont majoritairement en Kabylie, et eux qui font du prosélytisme et qui sont du reste persécutés par le régime algérien, mais les catholiques, il y en a moins de 10 000.
Vous dites...
passé de 150 000 ou de 350 000 à 10 000.
C'est ça, 350 000 à 500 000, en fait. Vous dites en 62. Et aujourd'hui, ils sont estimés à quelques milliers. Alors, parmi eux, il y a des Français expatriés.
Voilà, des Français expatriés comme moi, les gens de Total, les diplomates italiens, européens.
Qui travaillent à
Alger. L'ambassadeur de l'Union européenne catholique, extrêmement fervent, allait tous les matins à la messe chez Mgr Defarge à l'époque. Il y a des expatriés, et puis le reste,
des migrants subsahariens irréguliers, dites-vous, quelques centaines d'Algériens.
Oui, très peu, principalement
des Kabyles de confession protestante ou évangélique.
Oui, oui, voilà.
Mais j'ai bien compris, ça a
été complètement effacé.
Il m'avait semblé que la malgré tout, la présence chrétienne...
Il y a plus de prêtres que de... que de pratiquer.
Fidèle.
Ah, bon, voilà.
Ah bon.
Ça, ce sont pour les catholiques.
Non, c'est moi
mais...
qui dis ça.
Ah bon, ah, d'accord.
Mais je ne suis pas loin presque. De la réalité.
Mais, oui, bah oui, apparemment.
Mais là, on parle des catholiques. Mais pour l'essentiel, le mouvement évangélique, il est quand même présent. Et oui. C'est plusieurs milliers, sinon oui. Dizaines de milliers.
Oui, tout à fait. Mais majoritairement en Kabylie. Et comme d'accord. C'est lié à la Kabylie, donc c'est politique. Et donc, ils sont persécutés.
D'accord. Mais donc, l'avenir du
parce
christianisme, il repose plus...
Parce qu'ils sont très liés au mouvement autonomiste kabyle et...
Mais il repose plus sur ces évangéliques, bon. L'avenir du christianisme,
oui, oui.
Que sur
oui,
ces catholiques oui. Qui rasent les murs.
Oui,
quoi.
Oui.
Yves-Marie, c'est bien.
Oui, non, j'allais effectivement dans cette direction d'héritage chrétien. Les pratiquants, ils ont un peu disparu de la terre algérienne. Est-ce qu'il y a tout de même du coup, des traces dans la mémoire collective ou dans la culture de cet héritage chrétien, de Saint-Augustin ou de Charles de Foucault, par exemple?
Non, non, non. Non, le régime essaye, avec la visite du pape, de récupérer l'héritage chrétien de l'Algérie en disant que Saint-Augustin était, dans le fond, le précurseur du FLN et de Boumédienne.
Vous avez une rhétorique pareille.
Il est
plus là pour se défendre.
Oui, mais voilà, c'est la réalité, c'est que l'héritage chrétien, c'est du folklore.
C'est dans les monuments.
Ça fait partie des légendes.
Moi, j'ai une question à vous poser. On a parlé du colonialisme français, mais est-ce que, question qui vous semble peut-être surprenante, est-ce qu'il y a quelque part une critique un peu du colonialisme algérien? Et puis il y a d'autres formes de colonialisme, je pense vis-à-vis des Touaregs par exemple.
Des
Touaregs,
oui.
qui n'étaient historiquement pas liés aux populations du Nord, qui étaient bien distinctes.
Leur colonialisme à eux, musulman vis-à-vis des Berbères, et la colonisation ottomane, quand le président Erdogan venait en visite d'État à Alger... Il condamnait la colonisation française, mais pas un mot sur les
Ottomans,
trois siècles de colonisation ottomane.
Allez, on attaque la dernière ligne droite de cet entretien avec Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, autour de son livre « L'Algérie, vérités et légendes » paru chez Perrin tout récemment. On va parler, de Karim Zeribi.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Damien Chalamel et Yves-Marie Sevilla, nous recevons Xavier Driancourt, notre ami Karim Zeribi, vous le connaissez, qui est un animateur qu'on a vu beaucoup sur la chaîne CNews, qui a depuis disparu, et qui est vraiment quasiment un porte-parole officieux, quasi officiel maintenant d'ailleurs.
Oui. Du pouvoir algérien, du reste.
Il ne s'en cache pas. Il a fait des déclarations sur la chaîne publique algérienne qui s'appelle Al24 News.
Oui.
Et appelant les diasporas maghrébines et africaines en France à prendre conscience de leur puissance électorale afin de faire barrage à la droite et à l'extrême droite. Et alors, parce que évidemment, les sondages en France inquiètent apparemment de l'autre côté de la Méditerranée, les sondages qui portent le Rassemblement national assez haut dans les intentions de vote. Est-ce qu'il peut être entendu? Est-ce qu'il y a une communauté algérienne suffisamment unie, suffisamment mobilisable, on va dire, pour que ces déclarations aient une importance pour qu'on puisse les prendre au sérieux, à votre avis, vous qui connaissez bien le pays et la population?
Oui et non, ça dépend qui vous mettez dans la communauté algérienne, qui en réalité est très hétérogène. Vous avez des franco-algériens de la première ou de la deuxième génération, souvent parfaitement intégrés, et qui votent non pas en fonction de l'histoire de l'Algérie ou des instructions de tel ou tel, mais en fonction de, comme vous et moi, que de tout électeur français. Vous avez les Kabyles qui sont une population très particulière, des franco-algériens, mais d'origine kabyle. Et puis vous avez et Karim Zeribi s'adresse plutôt à ceux-là, les jeunes français de la troisième ou quatrième génération, qui sont un peu paumés, parce que rejetés en France, rejetés en Algérie en réalité. Et donc il s'adresse à ses électeurs comme LFI le fait.
Ils sont vraiment rejetés en Algérie?
Oui, parce qu'ils sont considérés comme vivant mieux en France, comme ayant plus de liberté, comme ayant on les imagine comme l'oncle d'Amérique, qu'ils ne sont pas, parce qu'à Saint-Denis ou à Montreuil, ils sont pas, ils vivent pas comme l'oncle d'Amérique.
J'aurais tendance à répondre à Monsieur Zeribi qu'il devrait appeler à voter pour le candidat putatif qui a des origines algériennes, le seul notable que je connaisse. C'est Jordan Bardella.
Des origines algériennes.
Oui, bien sûr qu'il a des origines algériennes. Il a un arrière-grand-père, je crois. C'est pas loin, un arrière-grand-père.
Comme il y a beaucoup de gens qui ont des...
Oui, alors lui, il n'est pas sur la liste des présidentiables.
Non.
On a souvent dit, effectivement, monsieur l'ambassadeur, que l'inaction du pouvoir politique français pouvait être expliquée par, effectivement, la présence de cette communauté importante, y compris... donc les plus pessimistes pourraient l'imaginer s'insurger, créer des troubles à l'ordre public. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous pensez qu'il y a une communauté, entre guillemets, qui est une menace vis-à-vis de la France, habite sur le sol national?
C'est une réalité, mais encore une fois, elle est très hétérogène, cette communauté au sens large algérienne en France. D'abord, on n'a pas de chiffres précis. Moi, je l'estime à 5-6 millions de personnes, mais encore une fois, très hétérogène.
Vous avez les harkis et leurs descendants.
Karim Zeribi l'estime à 12 millions.
C'est un calcul à l'algérienne, ça.
Karim Zeribi.
À l'algéroise.
Qu'il y a une baisse du niveau de l'enseignement des mathématiques en France.
C'est-à-dire qu'en cas de remise en cause concrète des accords, par exemple, de franco-algériens de 68, vous ne pensez pas que la rue ou que l'opinion publique de la population d'origine immigrée puisse créer des difficultés.
Il y aurait bien sûr des protestations, mais...
Est-ce que c'est une force électorale, à votre avis? Non. Vous n'avez pas l'air de le penser.
Non, je ne pense pas.
Mobilisable, parce notamment par l'Algérie, parce que c'est ça la question.
Les mieux intégrés de cette population, et il y en a quand même beaucoup, entre les médecins, les ingénieurs, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les chauffeurs de taxi, les propriétaires de bars ou de restaurants, n'ont pas envie d'avoir le bazar en France. Leurs intérêts immédiats sont en France et pas en Algérie.
Et pourtant, moi j'avais été frappé par un sondage qui montrait que... Alors, c'était sur
ils ont un nationalisme et un patriotisme algérien très fort.
Ah oui, quand même. Et en plus, il y a quand même cette tendance chez les jeunes Algériens à être beaucoup plus radicaux sur le plan religieux que leurs parents et leurs grands-parents.
Alors, on dit jeunes Algériens, on ne sait pas en réalité. Ce sont souvent des Français, là aussi.
Oui, qui alors, veulent les jeunes descendants d'immigrés. Vous avez raison.
Des racines...
ils ont la nationalité algérienne.
Donc c'est très.
On est franco-algérien.
C'est quelque chose qu'on connaît mal.
Il y a
effectivement, vous avez raison,
un chapitre qui m'a.
Religieux.
C'est très fort.
Et
ils sont
très
radicaux.
Je connais beaucoup de jeunes, des étudiants que j'ai ou autres qui sont de cette troisième ou quatrième génération, qui font tous le ramadan. Il y a une espèce de phénomène collectif. On se retrouve pour rompre le jeûne. Il y a un côté très, très, très festif.
Très communautaire.
Très communautaire.
Et c'est moi, un des chapitres qui m'a marqué dans votre ouvrage, c'est que vous décrivez bien ces dernières décennies, et notamment à l'issue de la guerre civile, la mainmise de l'islamisme, beaucoup plus, et donc d'un islam beaucoup plus prégnant, sur fond de détestation de la France. D'arabisation, de rejet de du français au profit de l'anglais, et donc à rebours en réalité de l'Algérie de papa, en tous les cas de l'Algérie indépendante des années 70-80, qui était plus sur un logiciel sinon laïque, du moins en tous les cas beaucoup moins imprégné par l'islam. Et ça, c'est vraiment. Et c'est là où c'est effectivement très gênant, parce qu'il y a effectivement une combinaison d'une forme de nationalisme avec cet islamisme, alors qu'auparavant, c'était plutôt le nationalisme qui prévalait.
Et le plus curieux, c'est l'alliance, j'allais dire, du trône et de l'autel, c'est-à-dire du pouvoir militaire qui a combattu ces islamistes, mais aujourd'hui qui fait alliance avec eux pour des raisons différentes.
Et je me souviens.
Et ça, on ne le réalise pas, je pense.
Des propos de Boulem Sansal, on lui demandait s'il avait participé au Irak. Et ouais. Il avait dit oui, enfin, j'ai participé la première semaine, la première manif ou la deuxième, et quand j'ai compris que j'étais entouré d'islamistes, il a dit, mais ce sera sans moi, quoi.
Ouais. Yves-Marie Sévilla.
Oui, Xavier Driancourt, est-ce qu'on peut rattraper le temps perdu vis-à-vis des jeunes générations d'origine algérienne qui sont aujourd'hui en France, qui détestent la France, qui allègrement sont susceptibles de siffler la Marseillaise ou de participer à des difficultés, des troubles dans la rue. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut rattraper ces générations ?
À condition, j'allais dire, de parler plus fort que ne parlent les Karim Zeribi et LFI, qui au contraire instillent un discours tout à fait contraire en disant « vous avez raison de vous révolter, vous avez raison de siffler la Marseillaise ». Vous avez droit à 132 années de réparation au nom de la colonisation. Donc, il faut un discours en face à la fois construit et plus fort, plus audible. Mais comme votre éditorial tout à l'heure sur Xavier Bertrand le montrait, on voit bien qu'on n'a pas encore ce discours du côté de ce qu'on appelle la droite en France.
Oui, ça c'est clair.
Il est là aussi très hétérogène. Donc, il faut... construire et ce discours être plus fort.
Ça veut dire encore dernière question. Et il faut aussi parler plus fort que les mosquées, parce que
le recteur de la mosquée de Paris.
J'allais vous en parler. Voilà, le recteur.
Ça prendra beaucoup de temps.
Mais très rapidement.
C'est comme Karim Zeribi, un porte-parole de officieux.
C'est ça, parce qu'à chaque élection, vous dites qu'ils font ce qu'ils veulent, etc. Mais enfin, à chaque élection, la mosquée de Paris met en garde.
Il va à Roubaix chez le nouveau maire de Roubaix. Voilà. Et puis, sous couvert de bonnes paroles, moi je suis écuménique, c'est lui qui commentait il y a un peu plus d'un an le. Il commentait à la télévision sur LCI, je crois, l'inauguration de Notre-Dame. Alors, au nom, vous rendez compte, un recteur musulman qui commente l'inauguration de la messe à Notre-Dame, quel signal merveilleux! Mais
c'est de la soumission de la part de la France, vous pensez?
Vis-à-vis de la mosquée de Paris, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Vous avez entendu aussi ces affaires sur le business de la mosquée de Paris, sur la certification halal. C'est le journal L'Opinion qui a levé
absolument. Il y a une affaire, un chiffre d'affaires absolument incroyable.
Ça génère beaucoup d'argent dont on ne sait pas où il va.
Oui. Absolument.
Qui finance-t-il ?
Oui, énormément d'argent.
Oui.
Et je voulais simplement rappeler que cette mosquée de Paris ne ratait jamais une occasion de mettre en garde ses ouailles franco-algériennes pour leur rappeler de faire le bon choix, donc de ne pas voter à droite, surtout pas à l'extrême droite, et donc plutôt sur les autres partis, à gauche ou à l'extrême gauche. Il y a là une ingérence qui est plus que manifeste, semble-t-il. Damien Hachamel ? Pardon.
Non, mais j'ai parlé plusieurs fois de cette antenne de mon confrère, puisqu'il est avocat, Chemseddine Hafiz, qui est effectivement un porte-parole officieux du pouvoir algérien. Et je retiens, entre autres, les propos qu'il avait tenus à propos de Boulem Sansal, qui sont vraiment déplorables.
Il n'a pas levé le petit doigt.
Bien sûr. Donc c'est...
Alors qu'il est l'homme de Tebboune.
Bien sûr.
Dès qu'il a été nommé, lui aussi, nommé, pas élu,
petit télégraphiste
nommé à la tête de la Grande Mosquée, il est venu à Alger, il m'a rendu visite, mais il allait chez Tebboune.
Xavier Driancourt, merci infiniment pour cet entretien absolument passionnant. Je rappelle votre livre « L'Algérie, vérités et légendes » chez Perrin. Il vient de paraître et on apprend énormément de choses. Je cite quelques chapitres. « L'Algérie a-t-elle abandonné son héritage chrétien ? Le Sahara a-t-il été toujours algérien ? Les intellectuels français ont-ils joué un rôle décisif dans les années 50 ? La décennie noire a-t-elle été une guerre civile ? Bref, on comprend tout et beaucoup de choses en lisant ce livre. C'est à la fois d'une grande profondeur historique, mais aussi avec des tas d'éclairages sur l'actualité de ce pays qui concerne la France plus qu'aucun autre. Merci infiniment, Xavier Driancourt, d'être venu et vous revenez quand vous voulez. Oui. Nous aurons tout à l'heure notre petit clin d'œil culture. Damien Chalamel et Yves-Marie Sévilla ont préparé leur coup de cœur avec beaucoup d'attention. Mais auparavant, l'ARCOM plonge dans le contenu éditorial et menace une chaîne de télévision. Tiens, laquelle ? La chaîne CNews, c'est une étape.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Damien Chalamel et Yves-Marie Sevilla, via un communiqué publié ce lundi 15 juin, l'ARCOM a franchi un cap majeur dans le contrôle de l'opinion et de la restriction de la liberté éditoriale de nos médias. Le gendarme de l'audiovisuel s'ouvre de manière spectaculaire un espace de compétences qu'on avait oublié dans la démocratie française. CNews est donc mise en demeure de se conformer, je cite, à l'exigence d'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. La menace de l'ARCOM est claire, abandonnez votre ligne éditoriale ou nous fermerons CNews comme nous avons fermé C8 et d'autres chaînes d'ailleurs. Poutine n'a plus grand-chose à nous envier. L'ARCOM explique très bien qu'il a franchi un grand pas vers le contrôle éditorial des chaînes qui s'adressent aux Français. L'organisme, je cite et j'ouvre le guillemet, s'assure désormais que l'expression des courants de pensée et d'opinion par l'ensemble des intervenants à l'antenne n'est pas affectée par un déséquilibre manifeste et durable dans les programmes consacrés à l'information. L'agence d'État ne pèse plus seulement les temps de parole, elle sous-pèse les thématiques, les mots, les idées, les pensées. Bonjour Gilles Penel.
Bonjour, bonjour.
Bonsoir, merci d'être venu au rendez-vous. Vous êtes député français au Parlement européen, vous êtes le président des élus Rassemblement National au Conseil régional de Bretagne, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, vous êtes aussi membre, tout va bien jusqu'ici, vous êtes aussi membre du bureau exécutif et du bureau national du Rassemblement National, j'aurais, évidemment, on est tous curieux d'avoir votre réaction à cette décision de l'ARCOM. Comment est-ce que vous avez perçu cette décision, analysé cette décision au sein du Rassemblement National, et est-ce qu'elle vous inquiète ?
Oui, c'est une étape extrêmement grave qui vient d'être franchie contre la liberté d'expression. En fin de compte, l'ARCOM, dont on connaît ceux qui la dirigent et l'idéologie qui les habite, ne supporte pas comme d'ailleurs la gauche ne supporte pas qu'il y ait dans le paysage audiovisuel des médias qui lui échappent. Et CNews échappe. Par contre, moi j'aurais aimé que l'ARCOM fasse une réprimande par exemple à l'émission Quotidien sur TMC qui dit clairement « Nous n'inviterons jamais un représentant du Rassemblement National ». Là on n'entend pas l'ARCOM.
Raison. Mmh.
On n'entend pas l'ARCOM, alors que c'est chez Quotidien totalement affiché publiquement. C'est-à-dire que il revendique même avec plaisir de ne jamais inviter quelqu'un du Rassemblement National. Mais là, l'ARCOM est complètement muette. C'est une atteinte très grave à la liberté d'expression et je pense que vous avez raison d'y consacrer beaucoup de temps parce que les Français ne s'aperçoivent pas que il y a des attaques très très dures contre la liberté d'expression. Je pourrais prendre un exemple encore plus récent, la condamnation d'Éric Tegner, qui est extrêmement grave également, parce qu'il a attaqué ceux qui favorisent l'immigration dans notre pays.
Éric Tegner, qui est le patron de Frontières, hein, rappelons-le, Frontières, et qui voilà. Avait publié un numéro trimestriel consacré...
Voilà, qui montrait que certain nombre d'avocats se faisaient beaucoup d'argent en défendant les immigrés clandestins, avec de l'argent public en plus. Eh bien, pour cela, il est condamné. Donc, là, ce que vient de nous dire l'ARCOM, la condamnation d'Éric Tegner, et on le voit bien, je pourrais prendre d'autres exemples. La mobilisation de la gauche pour interdire les banquets du canon français dans nos territoires. Il y a là une volonté d'établir une véritable police de la pensée et de stigmatiser, d'attaquer, voire d'interdire tout ce qui ne va pas dans le sens de la pensée dominante de la gauche.
Yves-Marie Sevilla a une question pour vous.
Oui, Gilles Penel. Il y a quelques jours, effectivement, à contrario, l'ARCOM remontait les bretelles de France Info et France Inter, indiquant qu'ils n'avaient pas respecté les temps de parole, notamment des élus du Rassemblement National, mais mettant, on l'avait évoqué ici dans cette émission, leur temps de parole la nuit. Comment avez-vous réagi et comment vous mettez ça en perspective par rapport à cette décision ? Est-ce qu'on peut se réjouir d'une décision de l'ARCOM concernant le service public et s'insurger contre celle d'aujourd'hui, contre CNews.
Oui, alors vous avez raison de rappeler cela. Vous avez raison de rappeler cela. Sauf que ce n'est pas une remontée de bretelles. C'est, l'ARCOM a épinglé légèrement le service public en lui disant qu'il transmettait les interventions du Rassemblement national de Marine Le Pen, Jordan Bardella, uniquement la nuit. Mais j'ai envie de dire, et alors ? Et alors, c'est suivi de rien du tout. Tandis qu'on sent bien qu'avec CNews, c'est une menace grave, vous l'avez dit vous-même il y a quelques instants, voire d'interdire cette chaîne de télévision. Donc je pense que on peut pas comparer les deux. L'ARCOM a épinglé tranquillement le service public dit d'information, qui d'ailleurs s'en moque totalement et qui continuera d'ailleurs en toute impunité à faire son tri et une ligne éditoriale. Parce que j'ai l'impression que l'ARCOM reproche finalement la ligne éditoriale de CNews. Mais moi, je rappelle que CNews, c'est pas une chaîne publique, c'est pas payé par l'argent des contribuables. Donc, il y a une liberté d'avoir une ligne éditoriale. Par contre, la ligne éditoriale de France Inter, la ligne éditoriale de France Info, de France Culture, ça, elle ne doit pas être critiquée. Parce que là, il n'y a pas d'attaque contre le service public sur la ligne éditoriale. C'est simplement, éviter de passer quelquefois les dirigeants du Rassemblement National à 4h du matin. Bon, alors c'est vrai que ça a fait du bruit parce que c'était une première, mais ça n'est pas comparable du tout avec l'attaque directe contre CNews qu'on vient d'apprendre.
Oui, on voit bien que c'est une attaque évolutive, vous avez raison de le souligner. On sent bien que c'est le début de quelque chose, d'une entreprise.
Oui.
Et on l'avait vu d'ailleurs avec C8, qui a abouti à la fermeture pure et simple de C8. Hein. Donc ça avait commencé un peu comme ça.
On a quand même un précédent. On a un précédent de la fermeture d'une chaîne de télévision. Moi, je pense, si vous voulez, il y a une analyse plus profonde à faire. Je pense que la gauche est en train de perdre la bataille culturelle dans notre pays. Elle considère que le monde des médias, le monde de la culture était le sien depuis des décennies. Elle est en train de perdre cela, et je pense que, comme elle sait qu'elle est en train de le perdre, il y a une agressivité, une méchanceté, une intolérance, un sectarisme de plus en plus violent. J'ai évoqué tout à l'heure les banquiers du canon français. C'est intéressant, je vois en Bretagne chez moi comment le Parti Socialiste s'est mobilisé pour interdire le banquier du canon français à Quimper. On voit bien...
Je croyais que c'était un combat LFI. Mais non, les socialistes...
Oui, pas du tout.
Vous
là,
dites...
je vous parle des socialistes de Quimper. Et je vais même vous dire qu'à la prochaine session du Conseil régional de Bretagne, la semaine prochaine, le Parti Socialiste dépose un vœu pour justement, contre ces banquets, contre ces fêtes. Donc on est bien là dans une entreprise totalitaire, une entreprise sectaire de ces gens qui ne supportent pas, en fin de compte, une simple chose, la liberté.
Et vous avez raison de le souligner, c'est extraordinaire que le service public, qui est financé donc par tous les contribuables, y compris par les contribuables qui votent Rassemblement National au passage.
Ils sont nombreux quand même. Hein.
Et ils sont quand même nombreux ou qui s'apprêtent à voter dans les sondages. Ce service public se permet donc de diffuser les temps de parole du Rassemblement National la nuit, hein, donc entre minuit et 5 heures du matin, je crois que c'était ça.
Hein. Et
tout ça passe à peu près crème, alors qu'on tombe sur le dos d'une chaîne privée qui, elle, normalement, doit avoir une certaine liberté
éditorial,
bien plus que le service public.
Il y a d'autres médias qui ont une ligne éditoriale revendiquée, et c'est bien comme ça. Mais on voit bien d'ailleurs que l'attaque contre CNews, on voit bien que tout ceci, c'est sur le débat sur l'immigration. Parce qu'en fin de compte, l'ARCOM reproche à CNews de mettre en avant les faits divers qui mettent en cause des immigrés, particulièrement dans le domaine de la violence, etc. Et ça, ils ne le supportent pas. Parce que bien évidemment, sur le service public, tout ça, c'est l'omerta, on ne parle jamais de cela. Et donc, c'est ça qu'ils ne supportent pas, en fin de compte. Ils ne supportent pas qu'une chaîne parle de choses que eux boycottent.
Ouais, c'est ça. On retiendra par hasard Damien Chalamet, je vous donne la parole tout de suite, mais il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé de manière incroyable, je ne sais pas si vous avez retenu ça, mais c'est que l'ARCOM réagit par cette décision à la saisine d'une association Reporters sans frontières, une association qui a été créée par des journalistes parmi lesquels Robert Ménard.
Dirigé par Robert Ménard.
Absolument, oui. Fondé par Robert Ménard, mais c'est une association de journalistes qui donc a pris pour priorité comme tâche de bâillonner une chaîne. C'était, il y a quelque chose de... Moi, j'ai deux fils qui se touchent, là, comme journaliste, vieux journaliste.
Oui, mais vous avez raison, parce que là aussi, c'est une évolution, chez Reporters sans frontières inquiétante, parce qu'on a connu une époque où Reporters sans frontières, justement, défendait les journalistes et leur liberté d'expression, et défendait les journalistes qui étaient persécutés.
Mais c'était leur vocation, c'est pour ça qu'ils ont été créés.
Oui. Hein,
c'est leur mission.
Bien sûr, bien sûr. Mais méfions-nous, parce que je pense qu'il y a... faut pas prendre ça à la légère. Je pense qu'il y a une véritable offensive contre tout ce que la gauche ne contrôle pas. Et il faut se méfier, parce que le sectarisme, on le connaît bien. Et il faut mobiliser tous ceux qui sont attachés à la liberté d'expression, quelle qu'elle soit, parce que dans une république, eh bien, il faut la liberté d'expression.
Damien Chalamel avait une question.
Oui, mais c'est pas une question, c'est plus un commentaire. C'est, en vous écoutant tous, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un continuum illibéral dans la pensée, sinon le parti unique, et qui vise à remettre en cause nos grandes libertés fondamentales. Donc là, c'est celle d'expression. Oui. C'est celle de réunion, quand on veut rendre hommage à Dominique Vénère, on n'a plus le droit. Et celle d'expression, bah, depuis 72 en particulier. Et alors, ce que je trouve assez incroyable dans cette décision de l'ARCOM, c'est qu'en réalité, le respect du pluralisme au sein des médias, il existait dans les textes, mais c'est un peu comme le Conseil constitutionnel. Ça n'est que depuis très récemment que l'ARCOM s'est érigé en censeur, hein, au prétexte de faire respecter ce pseudo-pluralisme au sein de médias qui sont, encore une fois, comme vous l'avez justement rappelé, qui sont privés.
Je voulais aller dans...
L'ARCOM se comporte comme un tribunal de la pensée unique. Elle dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais là, on est dans un régime qui entre dans le totalitarisme. Et il faudra bien évidemment, dans quelques mois, je l'espère, réformer et changer tout cela.
En tout cas, c'est pas très libéral.
Le statut et le financement de l'ARCOM.
Gilles Pennel, pour prolonger exactement ce que vous dites, hein, je rappelle que vous êtes député français au Parlement européen, que vous êtes président des élus RN du Conseil régional de Bretagne et membre du bureau exécutif et du bureau national du Rassemblement national. Je me souviens, parce que j'ai un petit peu de mémoire parfois, que Olivier Schramek, qui était l'ancien président de l'ARCOM, il y a 2 ans, c'est tout récent, avait expliqué très clairement aux étudiants de Sciences Po Paris qu'il y avait une limite à l'œuvre de l'ARCOM, qui était celle d'aller trifouiller dans les points de vue des gens et dans les propos des gens. Or, la décision récente, cette décision incroyable, ça fait que permet à l'ARCOM de se pencher sur les sujets abordés, ce que vous disiez, donc les propos tenus par les intervenants, le vocabulaire employé, les thématiques, les points de vue exposés et la place laissée à la contradiction, ce qui suppose de savoir si tel ou tel invité contredit un peu, beaucoup ou pas du tout l'animateur et les personnalités différentes qui sont invitées en plateau. On arrive quand même, un exercice dingue.
Oui. Quand l'ARCOM dit que CNews ne respecte pas le pluralisme, c'est faux, parce que tout le monde sait bien. Je vois par exemple le matin que tous les partis politiques sont invités. On y trouve même Manon Aubry, hein, c'est pour dire. CNews invite Manon Aubry. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'en fin de compte, l'ARCOM s'en prend à des positions, à des idées. Voilà. Et particulièrement d'ailleurs sur le thème de l'immigration. Voilà.
Oui, c'est le tabou, ce dont on ne doit pas parler. Hein, Yves-Marie Sévillard.
Dans le même ordre d'idées, il y a des offensives de l'Union européenne relayées par nos gouvernements pour museler les réseaux sociaux. Il faut en être très conscient de ça.
Exactement dans le même sillage. Vous avez raison de le signaler.
Oui, c'est pour ça que c'est une offensive générale. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons tous les limites des réseaux sociaux. Mais s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y a des choses que les Français ne sauraient pas. Les images des émeutes le soir de la victoire du Paris Saint-Germain, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Mais ça dérange forcément que l'on montre la vérité.
Bien sûr. Yves-Marie Sévillard, pour conclure.
Mais non, moi, je voulais juste noter que lors des auditions les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, que ce soit les comités d'éthique qui étaient chargés de surveiller, ou Radio France, ou France Télévisions, ou l'ARCOM, chacun nous expliquait qu'il manquait plus ou moins de moyens, ou financiers, ou humains. Bon là, visiblement, l'ARCOM a réussi à mobiliser le banc et l'arrière-banc pour décompter qui a dit quoi, quel sujet a été traité sur ces news en long, en large et en travers. Et aujourd'hui, effectivement...
168 heures de programme, écoutez.
Précisément, hein, j'ai le chiffre.
Et oui, et tout ça, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent, et d'argent public. C'est-à-dire que l'argent public finance finalement la dictature de la pensée.
Gilles Penel, merci infiniment d'avoir éclairé ce point très grave de l'actualité de la semaine.
Oui, c'est grave.
Je rappelle que vous êtes député français au Parlement européen et président des élus Rassemblement national au Conseil régional de Bretagne. Vous êtes déjà venu, vous reviendrez, j'espère.
Oui,
merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Merci à vous. Bonne soirée à tout le monde.
Merci Gilles Penel, à bientôt. Voilà. Et je voulais préciser simplement que de son côté, CNews a dénoncé une interprétation excessivement restrictive de la liberté éditoriale dont doivent bénéficier les médias dans une démocratie. Il y a quand même un problème de démocratie, Yves-Marie Sevilla, non ?
Oui, c'est certain. C'est criant. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque plus au décompte. Maintenant, effectivement, c'est l'opinion qui est décortiquée sur CNews. Et moi, j'ai noté un détail qui m'a amusé. Je voyais que nos confrères de Mediapart ont analysé effectivement que CNews classait Julien Drey, ancien éléphant socialiste, parmi les temps de parole socialistes. Alors, d'un côté, effectivement, ça m'amuse, c'est cette bonne guerre, j'ai envie de dire. Mais voilà, ils sont en train de voir exactement tous les têtes. En revanche, que les uns et les autres soient décomptés dans le temps de parole sur le service public, un Xavier Bertrand va être décompté comme étant un homme de droite dans le décompte. Et donc ça va être un problème. Il n'y a pas de difficulté. Mais qu'en revanche, que CNews se permette effectivement de classer Julien Drey en socialiste, c'est inenvisageable pour Mediapart.
C'est ça. On ouvre avec cette histoire la boîte de Pandore, Damien Chalamel.
Non, mais c'est le côté totalement orwellien. Vous savez, la guerre, c'est la paix. Dans 1984, mais là, c'est le pluralisme,
c'est l'ARCOM.
Le pluralisme, c'est la censure. Sachez-le. Voilà, c'est ce que vient nous dire l'ARCOM.
Ouais.
Le pluralisme, c'est la censure.
C'est tout à fait
au nom de la liberté, on va vous priver de la possibilité d'entendre des journalistes qui ne pensent pas comme les petits marquis de l'ARCOM et qui ont l'outrecuidance de décrire le réel. Parce que, comme le rappelait le député Penel, finalement, c'est beaucoup ce qu'on reproche à CNews. Au-delà des saillies de Monsieur Pro, c'est surtout de donner une ouverture au réel. Vous voyez,
le scandale, c'est effectivement de juger ainsi CNews, alors que, comme l'a dit effectivement Gilles Penel juste avant, l'émission quotidien Rien, France Inter. c'est incroyable d'imaginer inversement. Et encore une fois, on parle ici d'une chaîne privée. Non mais France Inter, sur le décompte de parole, pas sur la ligne éditoriale. Alors que là, c'est la ligne éditoriale de CNews qui est en compte. Les thématiques qui sont abordées, on devrait effectivement calculer sur France Inter combien de fois l'humour oiseux de nos confrères a été utilisé pour dénoncer les idées d'extrême droite. Donc voilà. Je pense que l'obsession de l'extrême droite sur France Inter doit prendre bien 20% de l'antenne. Et ça, effectivement, en tout cas, c'est jamais décompté par l'ARCOM. Et alors que ce sont des chaînes du service public, alors que là, on parle d'une chaîne privée.
Exactement. Je précise simplement que CNews va porter l'affaire au Conseil d'État et le cas échéant, dit la chaîne, devant les juridictions européennes compétentes. Donc, il y a une bataille judiciaire qui s'ouvre, mais la Macronie, c'est incontestable, mène une guerre inexpiable à la liberté d'expression, à la fois sur les antennes, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, et on a là un nouveau terrain de jeu et un cran supplémentaire. Ce qui est assez frappant, mais je l'ai dit au début, c'est que l'ARCOM convient que c'est un cran supplémentaire. Voilà. Et ce cran supplémentaire, l'ancien président de l'ARCOM disait qu'il ne fallait surtout pas le franchir. Olivier Schramek, qui n'est peut-être pas du tout un homme d'extrême droite, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette question de l'ARCOM assez grave et dont on a assez peu parlé, trop peu parlé, à mon humble avis. Tiens, c'est l'heure de notre clin d'œil culture. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez trouvé quelque dans l'actualité culturelle, cinématographique et autres, quelques conseils à donner à nos auditeurs?
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Yves-Marie Sevilla et Damien Chalamel qui ont préparé avec attention leur petit clin d'œil culture. Damien Chalamel, tiens.
Alors moi, je vous recommanderais vivement le troisième tome d'un recueil de chroniques qui s'appelle « Une fin du monde sans importance ». Ce sont les chroniques écrites par Xavier Aymon qui était chroniqueur chez Élément et maintenant dans l'excellente revue Élément, qui en est maintenant le rédacteur en chef. Donc moi, je suis lecteur assidu de Xavier Aymant et lecteur assidu de ces deux premiers tomes de cette fin du monde sans importance qui n'en finit pas et qui, j'espère, l'occupera pendant les prochaines années et nous permettra de partager avec lui ce regard à la fois incisif.
Le titre est beau, en tout cas. Une fin du monde sans importance.
Extrêmement cruel. Donc ce sont des petites scénettes extrêmement drôlatiques avec un sens du dialogue, mais incroyable. Je ne comprends pas que Xavier Aymon n'ait pas encore été sélectionné pour être le futur Audiard des années, de nos années, de nos décennies, parce que c'est à la fois profond, désopilant, jouissif, et très cruel sur notre société, ses travers.
Vous me rappelez donc, le titre et l'éditeur?
Xavier Aymant, Une fin du monde sans importance, aux éditions de La Nouvelle Librairie.
La Nouvelle Librairie, Xavier Aymant. Merci Damien Chalamel, vous nous avez donné envie de le lire. Hein. En plus, c'était sympa d'avoir des livres qu'on peut lire par petites, en pointillés.
Ouais. Et les tomes sont égaux?
Ah oui, toujours.
Dans la matière, dans le fond?
Toujours, il n'y a pas entre le premier, le deuxième et le troisième.
Ils ont le même titre.
Hein, en fait, c'est une chronique qui fait une page dans Élément,
Qui s'appelle
Chronique du monde sans importance, d'une fin du monde sans importance. Et donc, on retrouve à chaque parution d'Élément la production de Xavier Aymant. Et au fil des années, il a fini par. Voilà, et donc là, on en est au troisième volume.
Magnifique. Yves-Marie Sevilla.
Oui, écoutez, le
clin d'œil culture.
L'été approche et effectivement, c'est un clin d'œil à la Provence et aux auditeurs de Radio Courtoisie ou qui habitent en Provence et qui nous écoutent par Internet ou aux Parisiens qui auront l'occasion peut-être de se rendre en vacances en Provence. Parce que vous avez un spectacle bénévole qui a été monté dans la ville de Cotignac, cette belle ville, ce très beau village de Cotignac au cœur du Var, où la Vierge est apparue, et c'est très significatif, parce que vous avez, c'est exceptionnel, et la Vierge Marie et Saint-Joseph qui sont apparus à Cotignac. Et donc vous avez un spectacle, qui s'appelle Le Veilleur du Rocher. Et c'est un spectacle qui aura lieu dans le village de Cotignac, du 14 au 19 juillet, cet été, et donc qui rassemble 200 bénévoles. Donc un spectacle qui va raconter l'histoire de la Provence, qui va mettre en avant l'esprit de la Provence, l'histoire chrétienne et de Louis XIV, de la Révolution, des grandes guerres du XXe siècle.
Ça nous changera de l'image qu'on a les soirs de match. Hein.
Exactement. Donc je pense que ça sera charmant
à Marseille.
Et que j'invite les auditeurs, s'ils ont l'occasion, s'ils sont en Provence à cette occasion du 14 au 19 juillet, de se rendre sur le site leveilleurdurocher.fr où ils pourront trouver les éléments, prendre un billet et se rendre à Cotignac un soir de juillet.
Magnifique. Et mon petit clin d'œil à moi, c'est le livre de Mathieu Boccoté, Entretien avec Laurent Dandrieux, sous ce titre très bien trouvé, Le pessimiste joyeux. Et on y découvre vraiment l'origine à la fois intellectuelle, géographique, morale, etc. de Mathieu Boccoté, cet ogre bienveillant qui dévore à la fois les livres, les idées, tout ce qui est la vie, tout ce qu'il trouve sur son passage. sage, qui ne dort jamais, qui lit, qui écrit un nombre d'articles.
C'est un bourreau de travail.
Un bourreau de travail. On comprend comment est-ce qu'il s'est forgé dans cette lutte pour l'indépendance du Québec. Il parle du Canada, de l'image de la France au Canada. C'est absolument passionnant. Laurent Dandrieu pose de très bonnes questions. Il y a un dialogue entre eux, très à la fois profond et comment dire, très personnalisé, très adapté à une personnalité qui est celle de Mathieu Bock-Côté, qui est, quand même, mérite vraiment le détour. C'est un très bon livre, Le pessimiste joyeux, Mathieu Bock-Côté, entretien avec Laurent Dandrieu. C'est chez Fayard.
Vous, cher Marc, vous les avez aussi reçus pour Boulevard Voltaire.
Absolument, je les ai reçus tous les deux, vous avez raison de le rappeler, pour Boulevard Voltaire, il y a une semaine. Il y a une semaine, on peut retrouver ça sur le site Boulevard Voltaire. Restons courtois du vendredi, c'est fini, chers amis. Merci à tous. Merci à Jocelyn, à la technique. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis, accompagnés, commentés. Heureux d'avoir passé ces deux petites heures en votre compagnie, comme Boulevard Voltaire, Radio Courtoisie, vous le savez, reste un miracle permanent et fragile qui ne vit que de dons et des Radio Courtoisie et des Boulevard Voltaire. Dans le climat actuel, c'est un devoir. Mais vous le savez, vous retrouverez lundi Restons courtois avec Pierre-Alexandre Bouclet, mardi avec Richard de Sèze, mercredi avec l'excellent Arthur de Vatrigan, jeudi avec l'incroyable Marc Hainaut. Nous, on se retrouve le vendredi 26 juin, même heure, même adresse, Restons courtois 17h30, 19h30 sur Radio Courtoisie avec Boulevard Voltaire et toute la joyeuse bande. Ce sera notre dernière émission de la saison. Ne la ratez pas, on vous attend nombreux. Je ne sais pas vous, mais nous, on a déjà hâte.
Ça suffit maintenant !